Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Patrick Sorel. Je suis déjà venu faire une émission il y a quelques temps, peut-être un mois, avec ma compagne pour parler de nos disciplines respectives. Moi, la phylothérapie et elle, les constellations familiales et systémiques. Et j'avais envie de revenir ce soir pour vous parler de respiration. Et notamment, pas n'importe laquelle des respirations, ce qu'on appelle la respiration holotropique. Voilà, j'ai envie de faire toute une émission là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années déjà et qui m'a pas mal épaté. Dans mon taf de phylothérapeute, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, qu'est-ce que c'est que la phylothérapie juste en quelques mots? Moi, je suis enseignant en philosophie depuis maintenant 15 ans. Cette année, j'ai décidé de quitter ma chaire éducation nationale pour me consacrer entièrement au métier de philothérapeute. Et la philothérapie, c'est une pratique d'accompagnement de la personne, d'accompagnement à la personne qui utilise la philosophie comme outil principal pour aller analyser les croyances, le système de croyances de la personne avec bienveillance et respect, parce que un système de croyances, c'est toujours une construction qui a un sens et un but. Et ce système de croyance, l'idée, c'est d'essayer de voir à travers lui qu'est-ce qui parle en la personne, quels sont ses besoins aujourd'hui, quelles sont ses blessures que peut-être elle ne connaît pas tant que ça, et de remonter de là à son passé, de faire une généalogie des croyances pour aller voir l'enfant à l'intérieur de lui qui a mis en place toutes ces croyances qui sont aujourd'hui certaines utiles, d'autres un peu moins, et puis de voir s'il est possible avec la personne de changer peut-être ses croyances si elle n'est pas assez confortable à l'intérieur de celle-ci. Voilà, ça c'est mon taf. Et j'utilise entre autres la respiration holotropique pour pouvoir ancrer dans le corps les changements de croyances ou alors pour pouvoir même provoquer des changements de croyances puisque certaines expériences qu'on fait dans le corps sont profondément transformatives. Voilà pourquoi je m'intéresse tant à la respiration holotropique, l'émission d'aujourd'hui. Donc vous êtes bien sûr Radio Campus 90.8 et je vous remercie de me porter cette attention. Je vais commencer tout de suite par une première plage musicale pour mettre l'ambiance, parce que l'idée c'est pas seulement de parler mais aussi de voir comment on ressent dans notre corps ce qui se dit et ce qu'on écoute. Et donc j'ai choisi des plages musicales qui sont toutes provocatrices de changements de conscience dans différentes traditions, soit spirituelles, soit chamaniques, voire parfois mystiques. Pour commencer, peut-être que certains connaissent Osho et sa fameuse méditation dynamique, dont je parlerai peut-être ici et là dans l'émission. On commence par une plage musicale qui s'appelle Chakra Breathing de Osho.
Bye.
Voilà, voilà. Pour ceux qui se demandent où nous sommes, non, nous ne sommes pas dans un hôpital psychiatrique. Nous sommes sur Radio Campus 90.8, Radio Campus Grenoble. J'affectionne particulièrement cette plage musicale de Osho. C'est un tout petit bout de sa méditation Chakra Breathing que j'ai découpé et que j'ai remixé pour essayer de rendre l'effet encore un peu plus prenant. Et en fait, c'est juste pour vous donner une petite idée du point de départ d'une respiration holotropique. Je vais en parler un peu plus tard de la séance de respiration holotropique. Moi, je mets toujours cette musique au début pour engager la respiration. Et c'est comme ça que tout commence et que tout bascule. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous parler un peu de Stanislav Grof, qui est l'inventeur de la respiration holotropique, et de la raison pour laquelle il s'est mis à inventer une telle technique de modification de la conscience. On est dans les années 50, et Grof est psychiatre dans un hôpital tchèque à Prague, et notamment dans son service, il y a pas mal de psychotiques. Donc juste un petit rappel, la différence entre la névrose et la psychose dans la psychanalyse traditionnelle, puisque Grof est psychanalyste d'obédience freudienne. La différence, c'est que dans la névrose, pour Freud, la conscience a encore le pouvoir au moins de reconnaître qu'elle a un peu perdu les pédales par rapport aux idées qui l'envahissent régulièrement, des idées obsessionnelles, des mouvements compulsifs. Et donc, elle peut se rendre compte que quelque chose ne va pas, mais elle n'a pas le pouvoir de changer ça par elle-même. Donc, la psychanalyse peut aider dans ce cas-là, dit Freud. Dans la psychose, la conscience a totalement perdu pied. Elle est envahie par les contenus inconscients et la psychanalyse n'a aucun effet. Grof, qui est psychiatre et qui a suivi une formation freudienne, il sait tout ça et il ne sait pas comment faire pour amener ses patients à prendre conscience des problématiques et des traumatismes qui sont les leurs et qui sont pour lui à l'origine de leurs symptômes actuels. Donc il va utiliser, on est, je rappelle, à Prague, pleine République tchèque dans les années 50-60, une substance qui s'appelle le LSD, qui est tiré, comme tout le monde le sait, de l'argot de seigle, donc d'un champignon, et synthétisé quelques années plus tôt. Ça commence à être expérimenté par des médecins dans différents pays. Et Grof, son idée, c'est de faire une cure qu'il appelle psycholytique à ses patients psychotiques, c'est-à-dire de leur administrer une fois par semaine une micro-dose de LSD de l'ordre de 100 mg. Et son idée, c'est de les amener à vivre une expérience. En général, une expérience régressive, c'est-à-dire qu'ils vont revenir dans leur enfance très progressivement, hein, puisque la cure psycholytique peut durer d'une dizaine de séances jusqu'à une centaine de séances, une toutes les semaines. Et à chaque séance, la régression se fait de plus en plus vers la petite enfance. Et donc l'idée de Grof, c'est de faire vivre à la conscience une expérience de régression dans l'enfance et de reviviscence d'événements traumatisants. Grof se rend compte, puisque tous les médecins qui font partie de ce programme, à l'hôpital dans lequel il opère, tous les médecins ont déjà eux-mêmes fait des expériences sous LSD pour savoir quels étaient les effets. Du coup, Grof aussi. Et Grof se rend compte que c'est comme si, sous LSD, l'inconscient fournissait à la personne, pendant son expérience, une espèce de cartographie progressive qui lui fait vivre les événements dans un ordre assez précis pour aller chercher vraiment le cœur du problème, mais très progressivement, très délicatement, sans trop le brusquer. Et donc il a remarqué ça et il va pendant des années administrer à ses patients toutes les semaines une micro-dose de LSD. Alors ça, c'est en 56 le début des expériences de Grof. Et ça va durer à peu près 10 ans, puisque en 1967, Grof est appelé aux États-Unis, dans un hôpital tout ce qu'est le plus normal, à Baltimore, dans le Maryland, par une équipe de chercheurs qui, eux, les Américains ne sont pas en reste, font aussi des expériences sous LSD, mais cette fois-ci avec des patients volontaires, des patients qui sont atteints de cancer, qui sont en phase terminale de cancer, qui vont bientôt mourir, et qui font la demande de participer au programme qui est lancé par cette équipe de chercheurs. Et l'idée, c'est non plus d'administrer un certain nombre de doses toutes les semaines, mais d'en administrer une seule, ou deux parfois, mais de l'ordre de 200 à 300 microgrammes à chaque fois, donc c'est un peu plus puissant. Et l'idée, c'est de leur faire vivre une expérience proche des expériences mystiques. Aldous Huxley, en Angleterre, a déjà mis ça en place quelques années auparavant. Il a raconté tout ça dans certains de ses récits, dans, genre les portes de la perception, très très intéressant, où Heaven and Hell, le ciel et l'enfer, ses expériences psychédéliques pendant les dernières années de sa vie. Et on sait maintenant que les expériences psychédéliques sont proches des expériences spontanées et mystiques. Et du coup, l'équipe de recherche américaine a déterminé que peut-être qu'une expérience psychédélique pouvait modifier la façon de penser des malades en phase terminale de cancer et les aider à mieux appréhender leur mort prochaine. Voilà l'idée. Et ça marche, puisque pendant un peu moins de 10 ans, il va y avoir tout un tas de personnes qui vont prendre du coup une dose de LSD quelques semaines avant de mourir et qui vont voir un changement significatif se produire dans leur manière de penser, dans leur système de croyance, dirais-je. Et qui vont donc, pour certains, alors le but c'est pas de les guérir, hein, c'est pas d'éliminer le cancer. Il se trouve que pour certains, il y a des guérisons spontanées. Certains pourraient appeler ça des miracles. Ce que disent certains patients, c'est qu'ils se mettent en devoir de se soigner par des outils qu'ils ont obtenus pendant les séances. Donc je laisse à chacun le loisir de croire ou de ne pas croire à ces affirmations. Ce qui est sûr, c'est que pendant ces expériences, ils ont vécu des choses qu'ils racontent et qui sont assez intéressantes, qui peuvent ressembler aussi à ce que peuvent raconter des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, NDE en anglais, Near Death Experience, EMI en français, expérience de mort imminente. Et donc, passionnant ce que peuvent dire ces personnes. Gros problème, en 1975, le gouvernement américain interdit le LSD pour tous les usages, y compris les expériences scientifiques, suite aux nombreux abus qu'il y a eu par la jeunesse américaine, poussée par des gens comme Timothy Leary, qui se sont fait les prêtres du LSD, pour le meilleur et pour le pire. Et du coup, le LSD est interdit, grof et désespéré. Et donc, il va mettre en place une technique qui, pour lui, va pouvoir reproduire un état de conscience modifié proche de celui sous LSD. C'est la respiration holotropique. Voilà comment la technique est née. On est en 1975 et après la plage musicale que je vais maintenant vous passer, je vous raconterai comment les premières séances se sont déroulées et comment se déroule une séance de respiration holotropique. Donc là, je vais vous faire écouter un groupe de Sibérie qui chante en tuvan. Le tuvan, c'est un dialecte de Sibérie qui est en général employé par les chamans. Et le groupe s'appelle Unurtu. Voilà. Et ça s'appelle le tuvan international.
Amen. Таңдым маржанар мэлэри шерши Аң мэн аралбатын Таңға дулы олзын Орай, курай
Voilà, c'est une de mes chansons préférées que j'aime beaucoup, beaucoup passer dans les séances de respiration que j'organise. Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 et j'en profite pour passer pour faire un énorme bisou à ma chérie qui m'a envoyé un SMS pendant la chanson pour me dire qu'elle m'écoutait. Merci. Alors, je vais vous parler des séances de respiration holotropique. Ça y est, on y est. Il faut savoir les séances de Groff, sous LSD, quand il faisait encore ça, pouvaient durer entre 4 et 8 heures. Il n'utilisait pas que le LSD, le DMT aussi, parfois aussi l'ayahuasca, c'est encore un peu différent. Mais sous LSD, ça pouvait aller jusqu'à 8 heures, donc c'est quand même une grosse expérience, quoi. Pour ceux qui ont déjà fait des cérémonies... avec des plantes maîtresses, ça peut durer assez longtemps. La respiration holotropique, c'est un état modifié de conscience qui est provoqué uniquement par une hyperventilation de départ, donc une induction en fait, comme les inductions hypnotiques, mais en utilisant le souffle, l'hyperventilation, et puis des musiques assez évocatrices. Il y a aussi l'effet groupe qui fait beaucoup. Et c'est quelque chose qui dure en général 4 heures maximum. Voilà, il y a 4 phases que je vais vous décrire, mais juste avant ça, dresser un peu le tableau d'un stage de respiration holotropique, puisque l'idée, c'est pas de faire ça seul chez soi, puisque ce qui advient quand on se met dans un état de conscience modifié tel que celui provoqué par la respiration holotropique, c'est pas très prudent de le faire tout seul. Et puis, il y a aussi le fait que notre inconscient, qui est quand même notre protecteur, ne se sent pas très très sécurisé si jamais on fait ça tout seul, et du coup on va pas aller aussi loin que si on est protégé par le cadre d'un groupe. Donc ce qu'on fait en général, c'est que c'est des séances de groupe, ça peut se faire en individuel, mais en général c'est des séances de groupe qui ont pour gros intérêt de, donc en général c'est une dizaine de personnes sur 2, 3, 4 jours, donc ça a le gros intérêt déjà de mettre les gens par deux et de faire que une séance de respiration holotropique va être forcément accompagnée par une personne qui va assister et prendre soin du respirant pendant toute la durée de sa respiration. Donc ça veut dire que lorsqu'un couple entre guillemets a été déterminé en début de stage, quand il y en a un qui va respirer, donc qui va faire sa respi sur 4 heures, l'autre va être là à être vraiment attentif à lui, donc ça va déjà le sécuriser, même si quand il tombe dans des états de conscience modifiés, il ne s'en rend pas forcément compte qu'il est accompagné, l'inconscient lui le sait. Et puis l'autre personne, ensuite, lui va elle aussi respirer le lendemain, par exemple, et être accompagné par la première personne. Ça a aussi l'intérêt, donc, c'est ce fonctionnement, de faire en sorte qu'une personne puisse vivre les deux positions. Et la position d'accompagnant est au moins aussi intéressante que la position de respirant par rapport à tout ce qu'on peut vivre. Puisque là, on est en état de conscience, on va dire, normal, si jamais ça existe, en tout cas un peu moins modifié, mais en vrai, pas trop, puisque le spectacle d'une dizaine de personnes, ou peut-être 5, 6, 7 personnes allongées sur des matelas qui hurlent dans tous les sens, ça peut quand même bousculer un peu la conscience. J'en ai fait l'expérience une ou deux fois. Donc ce spectacle-là, et aussi le fait de vraiment se consacrer entièrement, exclusivement dans la présence pure à quelqu'un pendant 3-4 heures, c'est vraiment une expérience intéressante. Donc la respiration se fait en groupe, donc avec des couples de personnes, et on s'imagine que ça y est, c'est moi qui vais respirer aujourd'hui. Ça commence toujours donc par une petite phase de relaxation pour pouvoir lâcher un peu prise, détendre tout ça. Donc la personne qui respire est allongée sur un matelas, à même le sol. Son matelas, son espace de vie, son espace de sécurité, personne n'a le droit d'aller dedans, sauf si elle l'autorise, ou sauf cas particulier quand même, j'y reviendrai un peu plus tard. La personne qui l'accompagne est à côté d'elle assise, et la personne qui respire donc est allongée les yeux bandés, ça c'est important, pour pouvoir explorer son monde intérieur plus que le monde extérieur. Alors, elle n'a pas les oreilles bouchées puisqu'elle va entendre la musique tout au long. Et une séance de respiration commence donc par une hyperventilation qu'on va provoquer progressivement à partir de la phase de relaxation et qui ne va pas durer très longtemps. En général, ça va durer 5, 10 minutes grand maximum. Mais en 5 minutes, c'est déjà... Si on respire à fond, je peux vous le faire pendant 30 secondes, mais il faut que je m'éloigne du micro et que je garde tous mes esprits. Donc ça donne à peu près ça. Voilà. Et Je me rapproche à nouveau du micro. J'espère que je n'ai pas cassé les oreilles de mes auditeurs. Si on fait ça pendant une minute, on est déjà vraiment, vraiment dans un état différent. On imagine de faire ça pendant 5 minutes en s'engageant totalement, parce que l'idée, c'est de s'engager. Il est clair qu'on n'est plus le même, déjà. Et donc, il n'y a pas besoin de poursuivre ça pendant une heure, comme dans le rebirth, par exemple, où la respiration est plus circulaire, régulière et plus longue. Là, l'idée, c'est vraiment de s'engager au départ pour pouvoir induire un état de conscience modifié, et ensuite, avec l'aide des musiques, ça part. C'est bon, il n'y a rien besoin de faire. On a juste à se laisser aller. C'est vraiment un voyage. Ça peut être un voyage extérieur, ça peut être un voyage intérieur. C'est souvent au moins les deux. Et ce voyage va contenir 4 phases. La première phase, donc celle qui commence quand on s'hyperventile et qui dure en général une heure. Ça peut être 3/4 d'heure, ça dépend des groupes et puis ça dépend aussi des animateurs. Donc cette phase-là, c'est une phase qui est vraiment marquée par le rythme tribal, par la volonté de densifier l'atmosphère de la conscience, de s'ancrer dans la terre, de retrouver des racines, parce qu'en fait on peut pas décoller si on n'a pas de racines, c'est très clair, tous ceux qui sont dans la spiritualité le savent, coupons-nous les racines et on ira nulle part. Donc l'idée c'est de vraiment de nous ancrer, de nous amener à retrouver nos racines et à densifier nos vibrations, on va dire. Donc c'est de la musique qui est en général celle qu'on pourrait entendre dans des cérémonies chamaniques, donc avec des rythmes très, très lourds, très puissants. Ça peut être par exemple dans la culture moderne quelque chose comme du djembé, avec par exemple du didgeridoo, avec des tambours, des percus, beaucoup de percus. Voilà, quelque chose qui donne envie de régresser dans un état de l'humanité qu'on a tous connu à un moment donné, peut-être, ça dépend des croyances, qui est l'état tribal, quand on était encore au contact de la terre, dans les forêts. Voilà, voilà. À cette phase va va succéder une autre phase qui, du coup, change totalement d'atmosphère, puisqu'elle va être beaucoup plus émotionnelle. Si vous voulez, avec la première phase, pour ceux qui parlent chakra, on était plutôt dans le premier, le chakra du coup qui est relié à la Terre. Et là, on est plus vers le plexus, c'est-à-dire on est dans l'émotionnel. Et donc, l'idée de Groff, c'est de nous faire vivre des émotions. Et donc, toutes les musiques qu'il programme vont vraiment aller nous chercher aux tripes dans le domaine de l'émotionnel. Et là, donc, il n'y a pas à chercher très loin. On va aller, par exemple, vers les musiques classiques ou vers les musiques épiques, les musiques de films d'aventure ou de films épiques en général. Donc, celle que je vais vous mettre juste après, pas maintenant, mais dans 5 minutes, fait partie de ce genre de musique, puisque j'ai choisi mes plages musicales pour pouvoir vous montrer les différentes phases d'une respiration holotropique. Donc c'est des musiques qui peuvent être, par exemple, violentes, qui peuvent être, par exemple, angoissantes, qui peuvent être aussi extrêmement joyeuses à un moment donné si y a une victoire après un combat rudement mené à fêter, à célébrer. Et donc, pendant près d'une heure, on va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, je dirais, parce que ces musiques vont provoquer chez nous, et c'est impressionnant de voir à quel point est-ce que la personne qui est en respiration va à chaque fois utiliser une musique pour pouvoir induire une sorte de voyage, une expérience précise, et comme si cette musique était parfaitement là pour elle à ce moment-là. Alors qu'en fait, c'est la même pour tous, chacun la vit différemment. Mais l'inconscient utilise chaque plage musicale pour les faire un voyage ici et là. Donc on peut vivre pendant cette deuxième phase des émotions vraiment, vraiment intenses et d'expériences assez profondes. Je parlerai tout à l'heure des différentes expériences qu'on peut avoir. À cette deuxième phase succède une troisième phase qui, elle, est beaucoup plus calme, beaucoup plus céleste, presque on va dire angélique, donc avec des fréquences vibratoires qui sont beaucoup plus élevées. Et là, l'idée, c'est maintenant qu'on s'est ancré à la Terre, maintenant qu'on a déchargé un petit peu toutes les émotions dans une sorte de catharsis, ben on va pouvoir grimper peut-être un peu et ressentir des émotions beaucoup plus fines, beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses. On peut être, ça m'est déjà arrivé, dans des états d'enthousiasme au sens étymologique, de joie profonde au contact de quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Et c'est, je sais pas, il y a pas de mots en fait, mais c'est une phase qui est intéressante. Parce que, comme disait Carl Gustav Jung, quand on a, alors je vais le dire avec mes mots, quand on a nettoyé un peu la merde, quand on a balayé un peu nos écuries d'Ogias, souvent c'est quelque chose de pur qu'on rencontre. Et voilà, c'est dans cette phase-là qu'on va contacter ces choses-là en général. Une dernière phase, ça fait déjà 3 heures qu'on est en respi, ou 2h30, c'est une phase qui nous permet de redescendre en douceur. Donc les plages musicales de la dernière phase sont en général à la fois calme et dense pour nous ramener tranquillement dans nos corps. Donc l'idée, c'est plus de voler, c'est de redescendre. Chacun son rythme. Donc c'est là qu'on va voir les gens qui vont se réveiller les uns après les autres, qui vont pouvoir se lever, bouger un peu. Donc chacun doit respecter son rythme. Il y a des fois des gens qui repartent loin dans un voyage dans cette phase-là, parce qu'en fait le travail c'est pas totalement terminé pour eux. Et donc l'idée, c'est vraiment de laisser chacun se réveiller à son rythme. Il y a une heure pour ça. Et il y en a qui, au bout des 4 heures, sont encore dans le coltard. Ça arrive, effectivement. Mais c'est quand même plutôt rare. Voilà pour les 4 phases d'une séance de respiration holotropique. Et j'ai oublié de préciser que avant et après les respis, il y a des groupes de parole. Donc les groupes de parole sont organisés avant les 2 phases de respiration pour pouvoir poser une intention. Parce que c'est bien quand on va faire un stage de voir avant un peu ce qu'on a envie de travailler, là où on a envie d'aller. Et cette intention, une fois posée, il suffit de faire confiance, de lâcher prise et de voir qu'est-ce que notre inconscient va nous amener comme expérience, pour pouvoir, comme enseignement, comme apprentissage, pour pouvoir répondre à la question qu'on s'est posée. Et puis après les 2 phases de respi, donc celle où on a respiré, celle où on a accompagné, il y a toujours dans un stage de respiration holotropique un dernier groupe de parole où là, les gens vont pouvoir raconter s'ils ont envie ce qu'ils ont vécu, les enseignements qu'ils en ont tirés. Et en général, ça fait pas mal résonance les uns avec les autres. Et puis c'est aussi une manière de se rendre compte que voilà, moi j'ai vécu ça, mais lui il a vécu ça. Pour moi, ça a été dans les premiers stages une manière de me rendre compte que je me rappelle le tout premier stage que j'ai fait il y a pas mal d'années avec Patrick Baudin au fond d'une cuvette dans le Val de Consolation qui est un formidable monument religieux qui maintenant ne sert plus. Et donc j'étais accompagnant. Et c'était la première fois que je vivais ça. Et là, je me retrouve au milieu d'un hôpital psychiatrique. En deux secondes, je me dis, mais c'est pas possible, où est-ce que je suis ? Et les gens, ils hurlaient dans tous les sens. Ça tapait, ça criait, ça souffrait. Et j'étais, waouh, j'étais vraiment pas bien. Et il y en a un notamment que je regardais. Et je me disais, mais lui, il va y rester, quoi. Je me rappelle plus ce qu'il faisait, mais il était déchiré, le gars. Et en fait, dans le groupe de partage final, il partage son expérience et il était serein, rayonnant, soulagé. C'était impressionnant. Je me suis dit, waouh, d'accord, ok. Donc il a vécu ça, il a traversé ça et maintenant, maintenant il va vraiment bien, visiblement. Est-ce qu'il faut pouvoir avoir vécu ça pour aller bien ? Alors j'ai compris un peu plus tard que effectivement ça peut être intéressant des fois dans sa vie de pouvoir retraverser, revivre des événements qu'on n'a pas réussi à gérer à un moment donné dans son enfance parce qu'à l'époque on n'avait pas les armes pour pouvoir gérer cet événement et donc si on l'avait vécu en pleine conscience on aurait été peut-être débordé et c'est là qu'on aurait décompensé et donc on a décidé tout simplement de shunter, de cliver, de pas vivre le truc entièrement. Et le truc qui n'est pas vécu, il demande à être vécu. Et quand je le vis des années plus tard, dans une expérience de respiration holotropique par exemple, là j'ai les armes maintenant pour l'affronter. Et donc je peux me permettre de le revivre entièrement. Et donc ça fait mal en général, c'est douloureux, c'est la souffrance à l'état pur, mais le fait de le vivre dans cette tripe entièrement, c'est ça qui soigne, c'est ça qui est thérapeutique. Et donc c'est ça que les gens témoignaient dans les groupes de partage final. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie de moi-même accompagner des gens par l'intermédiaire de la respiration holotropique. Voilà, je crois que j'ai tout dit concernant le déroulement d'une séance. Il me reste, après la plage musicale qui va venir, il me reste à vous raconter quelle sorte d'expérience on peut vivre en respiration holotropique. Dresser avec Stanislav Grof une sorte de cartographie de l'inconscient. Alors la musique qui va venir, c'est Beethoven. J'avais envie de vous passer du gros classique. A priori, tout le monde la connaît. Elle est devenue célèbre grâce à Orange Mécanique. Je l'ai un peu remixée pour pouvoir la rendre, parce qu'elle est quand même longue, cette plage musicale. Je l'ai un peu remixée pour pouvoir en faire quelque chose d'un peu plus prenant. Je vous laisse deviner de quel concerto il s'agit et de quel opus. Bonne écoute. We'll be right back. Voilà, j'en profite pour faire toutes mes excuses à Beethoven qui doit se retourner dans sa tombe parce que j'ai massacré sa chanson. J'en suis bien conscient. Mais en même temps, si j'ai fait ça, c'est parce que c'est pour rendre un petit aperçu de ce que l'on peut vivre quand on vit de manière déformée, amplifiée à l'extrême une chanson, quand on est en état de conscience modifié, et que quelque chose qui dure peut-être 2 minutes dans la vraie vie, va durer 1 siècle, 2 siècles, 1 millénaire, 1 éternité. Ça m'est arrivé déjà de vivre cette expérience du « mais en fait, ça ne va jamais finir, c'est pas possible, je vais rester coincé là-dedans pendant des siècles et des siècles ». Et là, l'idée, donc, c'était de déformer la musique pour pouvoir remettre toujours ce rythme lancinant qui n'en finit pas de revenir à nouveau, et puis de le mélanger à son propre rythme de telle manière que ça devienne à un moment donné difficile à écouter. Voilà ce que peut être une expérience de respiration à certains moments. Alors, j'ai envie, dans le temps qu'il me reste, de vous parler de la cartographie de l'inconscient que Grof a dressée avec ses quelques, je sais pas, 20, 30 années, parce que Grof est né en 31, il est toujours vivant, il a commencé ses expériences en 56, il n'est jamais arrêté. Donc vous imaginez, après lui, il a plutôt formé des gens à être formateur de respiration, mais donc pas mal d'années d'expérience et de découvertes. Et donc dans son bouquin principal, la psychologie transpersonnelle, qu'il a sorti en 1969, il nous parle des 4 phases, alors il appelle ça des phases ou des niveaux de modification de la conscience. Donc les 4 strates, les 4 niveaux, qui n'apparaissent pas progressivement, c'est-à-dire on ne va pas passer du niveau 1 au niveau 4, mais ils peuvent apparaître à n'importe quel moment. On est plutôt dans le niveau 1 ou dans le niveau 2 ou dans le niveau 3 ou dans le niveau 4. Et l'idée, encore une fois, c'est que l'inconscient va nous amener exactement là où ça sert le plus à la transformation. Alors le niveau 1, ce qu'il appelle Grof la barrière sensorielle, c'est celui qui est le plus couramment appréhendé par les gens. Et ça, il s'en rend compte quand il fait ses expériences avec le LSD, Grof, puisque le LSD, donc la première chose que ça va faire au niveau de la modification de la conscience, c'est une modification de la réalité environnante. Au niveau des formes, au niveau des couleurs, les couleurs peuvent être beaucoup plus vives. On n'a jamais vu un rouge aussi rouge. Les musiques peuvent être une évocation ultime. La nourriture peut-être, j'avais jamais goûté ce plat comme ça, etc., etc. Donc cette barrière sensorielle, pour Grof, ce n'est pas quelque chose de très intéressant. C'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la superficialité pour lui et qui peut même nous empêcher d'aller voir un peu plus loin. On pourrait s'y complaire dans cette barrière. Il y en a qui peuvent peut-être vivre une respiration, parce que ça arrive assez souvent quand même en respiration aussi, une respiration entière dans cette espèce d'esthétisme d'une beauté incroyable, mais qui du coup n'en reste que à de la sensation, de la perception interne. On peut percevoir des formes géométriques, par exemple, on peut percevoir des sons de cloche, des musiques angéliques. Voilà, ça c'est ce qu'il appelle la barrière sensorielle. Le deuxième niveau, qui est donc un niveau un peu plus profond pour Grof, c'est ce qu'il appelle le niveau biographique. Alors là, c'est toutes les expériences qui sont liées à des blessures ou des traumatismes qu'on a vécu dans notre enfance. Et donc, biographie veut dire on va remonter le cours du temps pour aller vivre ces événements. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment de chronologie précise. Mais ce que remarque Grof, c'est qu'on va aller, au fur et à mesure des expériences psychédéliques, de plus en plus dans la profondeur. C'est-à-dire qu'on va vivre en premier les expériences qui sont les plus superficielles au niveau de la gravité ou la dureté émotionnelle de l'expérience, pour pouvoir aller de plus en plus rencontrer les expériences qui sont au cœur du traumatisme qu'on a vécu. Pour Grof, l'idée, c'est d'arriver à un moment donné, avec la respiration holotropique, au nœud originel, au cœur qui est en fait le premier traumatisme auquel se sont ensuite surrajoutés tous les autres traumatismes qui sont venus consteller autour du premier pour vraiment pointer le doigt. L'inconscient fait ça en général, naturellement même dans la vie de tous les jours, pointer le doigt vers telle ou telle émotion qui n'a pas été vécue et qui du coup demande à être vécue. Donc toutes les choses qu'on va vivre ensuite dans notre vie vont nous rappeler ça, toutes les expériences qu'on va vivre. Et donc l'idée, c'est que quand on arrive à ce nœud originel, ça y est, on peut respirer un bon coup, souffler, on est vraiment arrivé au cœur. Et le cœur, en général, dit Groff, c'est le troisième niveau. C'est ce qu'il appelle le domaine périnatal. C'est tout ce qui s'est déroulé autour de la naissance. Et donc Groff, ce n'est pas une théorie, hein, c'est quelque chose qu'il a juste découvert au fur et à mesure de ses expériences. La naissance, nous dit Groff, a été vécue consciemment par tout un chacun. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une croyance, nous dit Groff, c'est ce que montrent les expériences psychédéliques ou les expériences sous respiration. Très souvent, des gens vont revivre leur naissance, alors d'une manière plus ou moins symbolique, mais avec des détails qui sont parfois assez invraisemblables. La personne ne savait absolument pas qu'elle était née avec un cordon ombilical qui était enroulé autour du cou, et là, elle le vit. Et donc, elle ne peut que aller voir ensuite sa mère, par exemple, pour lui dire « Mais attends, tu ne m'avais pas dit ça ?» Ah oui, effectivement. Moi, il m'est arrivé de vivre, là ça devient un peu plus personnel, la rencontre avec une autre personne que j'ai identifiée dans la respiration comme étant ma sœur, et ça m'a bouleversé profondément, et l'émotion est là, et du coup je suis retourné voir ma mère ensuite, et je lui dis mais attends, j'étais pas seul dans ton ventre. Et elle me dit « Ah oui, effectivement, je t'avais pas dit, j'ai eu à un moment donné un saignement, bref, je vous passe les détails. » Et oui, voilà, pour moi, c'était pas très très important. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris que j'avais probablement une sœur jumelle. Waouh, super découverte. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre en respiration holotropique. Une naissance qui a été difficile, mais ça peut être aussi une naissance qui a été dite facile. Et en vrai, pour Groff, il n'y a pas de naissance facile. Une naissance, c'est une épreuve. Et une épreuve qui se déroule en quatre temps. Encore une fois, Groff aime bien le chiffre 4. Moi aussi, d'ailleurs. Le premier temps, c'est le temps où j'étais dans le ventre de maman, où tout allait bien. Et du coup, quand je revis en respiration holotropique ce moment-là, en général, ça donne des sentiments vraiment océaniques, des sentiments de fusion avec le tout, des sentiments d'extrême bonheur. Et cette première phase a évidemment pris fin à un moment donné, et ça c'est le départ des contractions. Et là, je peux m'imaginer bébé... qui me fait compresser dans tous les sens, parce que c'est vraiment ça l'idée, et qui n'a absolument aucune idée de quand ça va finir. Et donc ce genre d'expérience revécue en respiration holotropique, ça donne un sentiment de torture qui n'en finit pas. Voilà, on ne peut pas dire autre chose. Une espèce de désespoir, un truc qui... jamais en fait je vais sortir de là. Et c'est peut-être l'idée que j'ai eue à un moment donné dans ma vie quand j'étais dans le ventre de ma maman et qu'elle a eu des contractions qui ont commencé. C'est ce truc-là qu'on a en fait tous vécu, parce que a priori, on a tous vécu les contractions, approximativement. À cette deuxième phase succède une troisième phase, donc qui est l'expulsion entre guillemets du bébé. Et là, cette phase-là, elle donne en général, quand elle est revécue en respiration holotropique, quelque chose de l'ordre d'un combat, d'une lutte, un truc vraiment épique dans lequel, je vais mourir si jamais je sors pas de là. Et donc ça peut être vécu de manière symbolique, vraiment comme des scènes de guerre, des scènes de massacre. Mais l'idée là, par contre, c'est contrairement à la deuxième phase où j'ai le sentiment du désespoir, du « ça ne va jamais finir », là l'idée c'est qu'il y a un but, il y a une direction, il y a quelque part où aller. Et donc je vais concentrer toute mon énergie pour finalement traverser cette épreuve. Et donc c'est ce que Groff appelle réellement une mort. C'est-à-dire que déjà, je vais essayer d'éviter de mourir au passage, mais réellement, parce que je suis en train d'étouffer, là. Je suis un bébé, j'ai ma tête qui se fait compresser dans tous les sens, mon crâne qui se déforme. Et du coup, j'essaye vraiment de lutter pour ma survie. C'est ma première lutte pour la survie. Si je la réussis, c'est une sacrée expérience quand même. Et donc, si je la réussis, ben c'est a priori ce qui arrive parce que je suis là. C'est la quatrième phase, donc la phase de « ça y est, je suis sorti ». Et donc qui est mélangée entre deux sentiments, dit Groff. Le sentiment de « ça y est, j'ai réussi, je suis enfin sorti de là ». Donc c'est une renaissance. Pas une naissance, une renaissance. Parce que j'ai failli mourir et puis je suis mort à l'état dans lequel j'étais avant de naître. Il y a eu un état dans lequel j'étais consciemment avant de naître, donc je suis mort à cet état, et donc je suis en train de renaître. Et donc c'est aussi un sentiment d'insécurité. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fous là? C'est étrange tout ça, c'est inconfortable. Et donc le sentiment qui est revécu en respiration anotropique, qui est celui donc, de la quatrième phase périnatale, c'est un sentiment qui est assez mélangé en général. Voilà les quatre phases qui sont liées au troisième niveau, qui est le niveau périnatal. Et puis il y a un quatrième niveau, alors qui est là, libre à chacun de mettre dans ce niveau les croyances qu'il veut. Groff l'appelle le niveau transpersonnel, et c'est ce qui a donné son nom à la psychologie transpersonnelle, la psychologie de Groff. Et donc, après lui, pas mal de médecins ont repris ce titre psychologie transpersonnelle. Pourquoi transpersonnelle ? Parce que là, l'idée, c'est que je vais faire des expériences qui vont très largement dépasser ma petite personne. Alors, ça peut être dans le temps, ça peut être dans l'espace, ça peut être de plein de manières. Dans le temps, par exemple, ça arrive, dit Groff, que les gens vont non seulement vivre leur naissance, mais vont remonter encore un peu en arrière. Peut-être qu'ils vont vivre d'autres vies, si jamais il y a d'autres vies. Alors l'idée, c'est pas d'affirmer qu'il existe d'autres vies, mais c'est d'affirmer qu'il y a des gens qui, en respiration anotropique, vivent des choses qu'ils appellent des vies antérieures. Et c'est OK, en fait, qu'ils appellent ça. Le but, c'est pas de croire ou de ne pas croire, c'est de voir que ça a réellement un effet thérapeutique sur la personne, à un moment donné, de vivre ça. Ça peut être aussi, une vie antérieure, mais... Une remontée dans ma généalogie. Ça peut être une grosse prise de conscience à un moment donné qui est OK, ce que j'ai vécu là dans ma vie, c'est déjà ce qu'a vécu mon père, ma mère, mon grand-père ou ma grand-mère. Et donc ce qu'on fait en constellation familiale, c'est aussi ce que vivent des gens en respiration des fois, c'est des remontées dans les constellations. Au niveau spatial, ça peut être un élargissement de conscience. J'ai vu déjà des gens qui racontaient qu'ils avaient, dans leur respiration, ressenti ce que ressentaient les autres personnes dans la pièce alors qu'ils étaient en train de respirer, fermés dans leur bulle. Et donc, il y a une empathie qui s'élargit au groupe, mais ça peut être une empathie qui s'élargit bien plus que ça. Ça peut être quelque chose qui donc se rapproche un peu des expériences mystiques de communiquant avec toute chose. Ça peut être des gens aussi qui parfois se font transporter dans une conscience qui n'est pas la leur. Alors des fois, c'est la conscience d'un animal. Ça peut être aussi, j'ai déjà entendu ça, la conscience d'une plante, la conscience d'une bactérie, la conscience d'une cellule, la conscience de leur propre cellule. Des malades en phase terminale de cancer, disait Groff, avaient réussi à localiser très précisément pendant ces séances-là l'origine de leur tumeur, les cellules cancéreuses, et s'était mis en devoir pendant la séance, s'était mis en devoir de réinformer ces cellules pour pouvoir guérir. Et c'est, quand on commence à envisager ça, c'est assez impressionnant quand même. Voilà. Donc, quatre niveaux. Sensoriel, biographique, périnatal, transpersonnel. Voilà un petit, tout petit aperçu des expériences qu'on peut faire en respiration holotropique. Je vous laisse avec... Dafer Youssef, juste avant de faire une petite conclusion, qui est un chanteur à la voix incomparable, vous allez voir, inspiré du soufisme, c'est-à-dire la tradition mystique de la religion musulmane, Dafer Youssef, et ça s'appelle « In the Name of Love ».
باسمك يا حب باسمك يا حب باسمك يا Yeah.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour quelques instants encore. D'affaire Youssef, ce gars-là, s'il n'est pas inspiré, je ne sais pas ce qu'il est. Bon, cette émission touche à sa fin. Il me reste en quelques mots, avant de laisser l'antenne, de vous dire que si vous voulez en savoir plus sur la respiration anthropique, vous pouvez me contacter sur mon site internet www.patricksorel.com. J'organise aussi une conférence avec l'association Entendons-nous jeudi soir à 19h30 à la Maison des Associations pour parler de philothérapie. Comment redonner à la philosophie sa vocation thérapeutique. Voilà, et puis une prochaine conférence le 6 février, toujours à la Maison des Associations, pour parler de l'inconscient. Concernant la respiration, les prochains stages auxquels vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur mon site, il y a une journée de respiration et de danse en cécité le dimanche 22 mars sur Grenoble, tous les renseignements sur le site. Et puis un stage intensif de 4 jours de respiration et de constellation dynamique avec ma compagne Sophie Aucourt du 2 au 5 juillet 2020. Là, on va vraiment rentrer dans la profondeur. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et n'oubliez pas de respirer.